L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette édition de L'un dans l'autre, le magazine d'information locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est la semaine de la presse et des médias à l'école.
Et dans ce cadre, nous vous proposons deux interviews du président de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elles sont réalisées par nos collègues de la radio citoyenne Couleur FM.
En effet, Monsieur Roch-Olivier Mestre était en déplacement à Lyon le vendredi 19 janvier 2024. Il a rencontré les acteurs de l'éducation aux médias sur la région, dont Radio B.
On retrouve une interview réalisée par Véronique Boulieu et une seconde menée par les étudiants de l'Université Lumière Lyon 2 dans le cadre d'ateliers d'éducation aux médias.
On les écoute après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Grand Bourg Agglomération construit des locaux d'activité économique à Val-Revermont.
La pose de la première pierre de ce futur village des entreprises artisanales a eu lieu le 5 mars dernier à Val-Revermont. L'objectif de ce projet est de dynamiser l'activité économique de la zone de Lucinge et de proposer à des artisans la possibilité de se développer. Ces locaux s'adressent à des professionnels qui débutent et auront besoin de tester leur modèle économique. Ils seront proposés en location avec loyer progressif durant les 3 premières années.
Livraison prévue de ce village artisanal à l'automne 2024. Journée internationale des forêts, le 21 mars, découvrez ou redécouvrez les forêts près de chez vous.
Dis Perrine, tu connais la sylvothérapie ?
Non, pas vraiment, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'art de se ressourcer en forêt ou à proximité d'arbres, cela pourrait avoir un effet bénéfique sur le bien-être. Alors, pourquoi pas profiter de la Journée internationale des forêts pour partir en balade dans la nature ? Cet événement initié par l'ONU valorise les forêts, l'arbre et le bois et sensibilise le public à la gestion durable des forêts et à leur rôle dans le cadre de la transition écologique. L'Office national des forêts organise des événements gratuits et pour tous, partout en France. Plusieurs événements sont organisés dans l'Ain. Voici quelques idées. Ce mercredi 20 mars, visite guidée en forêt de Rotonne avec l'association Arbres Essence à Belley.
Samedi 23 mars, plusieurs jeux de piste sont organisés dans la forêt de Seillon à Perona, dans la forêt communale de Labretouze à Oyonnax et dans la forêt communale de Divonne-les-Bains.
Si vous préférez une balade en calèche, rendez-vous à la forêt de Seillon le samedi 23 mars. Plus d'infos sur journée-internationale-des-forêts.fr.
Table ronde sur la biodiversité.
Ce sera le thème d'un débat organisé par le comité de liaison de la gauche de l'Ain avec la participation de 4 invités. Sonia Debias-Saïd, écologue et chercheuse, Alice Courrouble, porte-parole de la Confédération paysanne de l'Ain, Florian Moine, maire de Giron, référent services environnementaux des communes, et Maxime Meyer, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Lors de cette table ronde, il sera question de la préservation de l'eau et de l'air, mais aussi de la protection du sol. Le but de cette rencontre est d'informer sur la richesse que constitue la biodiversité de la Terre, aujourd'hui menacée.
Rendez-vous mercredi 20 mars à 19h à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté à Bourg-en-Bresse. L'un dans l'autre, l'interview.
L'ARCOM est l'instance de régulation des médias en France, née de la fusion d'Adopi et du CSA en janvier 2022. Si les médias traditionnels comme la télé, la radio et la presse sont régulés depuis 40 ans, les activités numériques restent un terrain à défricher. Véronique Boulieu, de Couleur FM, interroge le président de l'ARCOM sur les nouvelles missions de cette instance.
Alors Monsieur Roch-Olivier Mestre, vous étiez ce matin au rectorat de Lyon pour nous parler de l'éducation aux médias et vous avez souhaité rajouter et à la citoyenneté numérique. Pourquoi l'ARCOM s'est-elle emparée de cette thématique ?
Bien, comme vous le savez, les médias traditionnels sont régulés maintenant depuis longtemps dans notre pays, une quarantaine d'années, et le champ nouveau de la régulation maintenant, c'est les acteurs du numérique, donc notamment à travers un règlement européen qui vient de rentrer en vigueur. Donc on a des outils normatifs, coercitifs pour agir sur les médias traditionnels et maintenant sur ces grands acteurs du numérique, mais on voit bien que beaucoup de questions qui sont sous-jacentes en réalité relèvent de l'éducation. Comment utiliser de façon pertinente tous ces outils qui nous donnent accès à ces contenus numériques, comment faire la part du vrai et du faux sur les informations qu'on reçoit, comment apprécier ce qu'est une bonne information d'une mauvaise information pour garder l'esprit critique, et comment surtout adopter un comportement citoyen quand on utilise les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on ouvre un compte sur tel ou tel réseau avec un avatar ou un pseudonyme que du jour au lendemain, on doit se comporter comme le dernier des derniers, harceler ses petits camarades, les injurier, les menacer. Dans la vie en société, on est tenu d'adopter un comportement normal. C'est ça qui fait la cohésion d'une société. Et donc, on voit bien les excès qu'on observe sur ces réseaux. Et la réponse passe, certes, par la régulation de ces plateformes elles-mêmes, mais elle passe aussi, pour beaucoup, par l'éducation, et notamment l'éducation des plus jeunes. C'est la raison pour laquelle l'ARCOM s'investit sur ces sujets de façon importante.
Alors, quelle action allez-vous mener justement pour sensibiliser le public, les jeunes, les parents, les enseignants sur ces thématiques ?
Alors, c'est un travail d'abord qui est partagé, bien évidemment. L'ARCOM n'a pas de monopole. L'éducation nationale a bien sûr un rôle central à jouer en la matière, et ce qu'elle fait avec le corps enseignant, avec le CLEMI, qui est un établissement qui est rattaché au ministère de l'Éducation et qui déploie des initiatives en la matière. On le fait aussi, bien évidemment, avec les médias, parce que les médias font beaucoup de choses. Et je veux saluer en particulier l'action des médias de proximité, les radios de proximité, aussi, en particulier les radios associatives, qui font énormément de choses en la matière. C'est par un effort conjoint des uns et des autres qu'on pourra développer cette action. Donc nous, on est dans un rôle de mobilisation des acteurs, de sensibilisation bien évidemment des médias, d'organisation d'un dialogue fructueux entre l'éducation nationale et les médias, de mise à disposition également d'outils sur notre site que le corps enseignant peut ensuite utiliser, par des actions de formation qu'on peut mener en accueillant des professeurs pour leur parler du fonctionnement des médias et de la bonne utilisation des médias, en allant nous-mêmes sur le terrain, ce que j'ai fait moi-même ce matin en venant à Lyon, au rectorat, et en faisant une intervention à l'université de Lyon 2 aujourd'hui également. Donc voilà, c'est en démultipliant une série d'actions qu'on progressera en la matière.
Alors justement, aujourd'hui, vous êtes à l'université Lyon 2 avec les masters nouvelles pratiques journalistiques. Quel a été votre ressenti face à cette jeune qui avait des questions très intéressantes à vous poser aujourd'hui?
Écoutez, moi, c'est des moments que j'aime beaucoup parce que, bon, attends, j'ai une longue carrière derrière moi et j'aime beaucoup ces moments de partage et de transmission avec la jeune génération qui va démarrer dans la carrière. J'ai trouvé leurs questions extrêmement pertinentes, très, très pointues, tout à fait au fait des débats qui traversent aujourd'hui le monde des médias, et notamment de l'évolution des médias avec ce rôle croissant des grands acteurs du numérique. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu prolonger un peu la discussion, parce qu'il y avait beaucoup de questions, mais j'ai trouvé les questions extrêmement justes et très bien ciblées.
Et qu'est-ce que vous auriez justement à leur dire à tous ces jeunes qui sont venus vous écouter ?
D'abord, c'est un message de grande confiance. Je pense qu'il faut faire confiance à ces nouvelles générations qui ont un regard sur le monde exigeant, mais certainement avec l'envie de faire progresser le monde dans lequel on est. Je crois que les jeunes que j'ai rencontrés vont s'engager dans une voie professionnelle qui est très prometteuse, dans un monde des médias qui est lui-même en bouleversement, en transformation, et sur lequel il va falloir construire des choses, imaginer des choses, imaginer de nouveaux formats d'émissions, imaginer un nouveau dialogue. Il y a tout un lien de confiance à retisser entre les Français et l'information. Et donc je trouve que c'est très exaltant quand on démarre dans la carrière de rentrer dans un univers aussi changeant et en même temps aussi prometteur. Le rôle du journaliste dans la société va être très important dans les années qui viennent. Donc
Le Digital Service Act, ou Règlement sur les services numériques, est entré en vigueur au niveau européen le 25 août 2023. Son objectif est de mieux protéger les internautes européens des contenus illicites, dangereux, et d'encadrer les activités numériques. Lauren Rock et Zoé Thomas, étudiantes à l'Institut de la communication de l'Université Lumière, ont interrogé Roch-Olivier Metz sur le rôle de régulation numérique de cette instance sous l'angle de la démocratie.
On les écoute.
Bonjour Monsieur Mestre, donc vous êtes le président de l'ARCOM. C'est une nouvelle structure qui allie à la fois le CSA et Hadopi. Nous, en tant qu'étudiants en journalisme, on a souhaité appuyer sur le rôle de régulation numérique, qui est du coup une nouvelle mission de l'ARCOM. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le comptage du temps de parole, parce qu'il n'est actuellement pas compté en ce qui concerne les médias numériques, même ceux qui se déclarent médias. Comment, dans le futur, on peut réfléchir à ce comptage du temps de parole, notamment en temps d'élection présidentielle ?
Alors, c'est une question qui est soulevée de manière régulière, parce que les médias traditionnels, la télévision et la radio, sont soumis en France à des obligations particulières de contrôle du pluralisme politique. Ces médias doivent réserver un accès équitable aux forces politiques qui concourent au débat démocratique, et donc nous communiquent à nous, ARCOM, les temps de parole des personnalités politiques qu'ils invitent tous les mois, et on vérifie hors période électorale, tous les trimestres, que l'équilibre est respecté, et en période électorale, on a un contrôle qui est beaucoup plus strict. Mais ce sont des règles qui ne s'appliquent qu'aux médias traditionnels qui diffusent en particulier par voie hertzienne. Ce sont des règles qui ne s'appliquent pas à la sphère numérique, notamment aux réseaux sociaux, qui par contre ont quelques règles qui s'imposent à eux, qui sont des règles de nature européenne, qui étaient posées par l'Union européenne, notamment sur la publicité politique. Qu'on sache, quand on voit un message, si ce message relève de la publicité politique ou pas, parce que ça peut bien évidemment biaiser l'opinion. Je ne pense pas qu'on puisse étendre les obligations du pluralisme politique tel qu'il vaut pour les médias traditionnels aux acteurs du numérique. Je ne vois pas techniquement comment on pourrait imposer à quelqu'un qui crée une chaîne YouTube, pour prendre cet exemple, d'inviter tous ses concurrents à venir parler chaque fois qu'il s'exprime. On a bien évidemment le droit dans le débat politique d'exprimer librement son point de vue, on a le droit de faire des meetings politiques, on a le droit d'avoir des tracts, on a le droit d'écrire des livres sans nécessairement inviter son concurrent. Et la sphère numérique, c'est aussi un espace bien évidemment de liberté. Les médias traditionnels, ils ont des obligations particulières. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont une force de frappe très grande, ils touchent beaucoup, beaucoup de monde. Et deuxièmement, ils agissent sur des fréquences qui sont des fréquences qui appartiennent au domaine de l'État, qui leur sont attribuées gratuitement. Et donc, en contrepartie de cette obligation, en contrepartie de l'utilisation de cet espace des fréquences, ils sont soumis à ces obligations. Donc, ils sont dans une situation spécifique qui explique la situation dans laquelle ils sont placés.
Alors justement, vous me répondez en me parlant notamment des candidats qui utilisent les chaînes YouTube, donc notamment Jean-Luc Mélenchon qui crée sa propre chaîne YouTube. Moi, je m'intéresse vraiment au cas des médias. Et par exemple, on a les chaînes de Brut, de Hugo Décrypte, qui ont interviewé des représentants politiques pendant les campagnes présidentielles, notamment Hugo Décrypte qui, lui, s'est appliqué à un devoir de pluralité politique, mais rien ne lui oblige. Est-ce que si on trouve des médias identifiés sur Internet, on pourrait imaginer une régulation comme ça ?
Écoutez, on peut toujours tout imaginer. Hein. Le législateur, bien évidemment, est souverain, mais je pense que la réponse est plus complexe, parce que la maîtrise qu'on a de la sphère Internet est par nature plus complexe, puisque les fréquences pour les médias traditionnels sont des fréquences que l'on maîtrise sur le territoire. La sphère Internet, par définition, elle est sans limite. Donc voilà, on peut imaginer pour ce type de médias, il y a un régime d'obligation spécifique qui soit mis en place, mais c'est une question qui restera très compliquée, à mon avis, à traduire dans les faits.
Concernant le contrôle des écrans pour les mineurs, le président Macron affirme que les jeunes ne savent pas hiérarchiser l'information et s'interroge, je cite, sur leur rapport à la vérité et craint, je cite de nouveau, à une nouvelle génération de complotistes. Pourtant, des études montrent que les plus de 65 ans diffusent 3 à 4 fois plus de fake news que les jeunes. Ces mesures portent-elles atteinte, selon vous, aux libertés fondamentales de la jeunesse ? Quel est le positionnement de l'ARCOM concernant ces mesures ?
Non, je pense que le président a voulu souligner plusieurs choses qui sont importantes. D'abord, le fait que l'exposition des plus jeunes aux écrans très tôt et de façon prolongée peut avoir des effets très, très nuisibles. Et l'ARCOM, d'ailleurs, sur ce terrain-là, mène une campagne tous les ans, notamment pour les tout-petits, une campagne qui est intitulée « Pas d'écran avant 3 ans », parce que ça, c'est quelque chose qui est documenté, très renseigné. Il y a eu beaucoup de travaux en la matière et on sait les dégâts que ça peut avoir sur les plus jeunes. Deuxième point qu'il a voulu souligner, c'est effectivement toute l'importance de l'éducation aux médias, à l'information et ce que j'appellerais la citoyenneté numérique. parce que dans le monde qui est le nôtre, où les informations, les sources d'informations sont considérables, sont multiples, il y a les médias traditionnels, mais il y a toute la sphère numérique que vous avez évoquée, la fatigue informationnelle est très grande, et savoir faire le tri dans tout ça, savoir repérer le vrai du faux, savoir sourcer une information pour apprécier sa fiabilité, savoir subodorer ce qu'est une manipulation d'information, pour les citoyens d'aujourd'hui et de demain, ça va être un enjeu très, très crucial. Et c'est là-dessus que le président de la République, à juste titre, a voulu mettre l'accent. Il y a vraiment un enjeu de cohésion pour nos sociétés qui est très important, et c'est pour ça que le volet éducation à l'image et à la citoyenneté numérique est vraiment très crucial.
Je vais terminer cette interview en revenant à un média traditionnel, la télévision. Le 26 juillet 2023, l'ARCOM a prononcé une sanction de 500 000 euros à l'encontre de l'émission TPMP sur C8 pour non-respect des droits des personnes et à l'obligation de maîtrise de l'antenne. On sait que c'est une chaîne qui a des ressources financières et notamment possédée par Bolloré. Est-ce que cela ne questionne pas la pertinence de ces sanctions selon vous ? Dans quelle mesure sont-elles désincitatives ?
Non, moi je ne crois pas. Je crois que ces obligations gardent tout à fait leur pertinence. On est dans un état où la liberté prévaut pour les médias. La loi qu'on met en œuvre est d'abord une loi de liberté. Chacun peut communiquer, mais communiquer dans les limites qui sont fixées par la loi. Et les éditeurs, au regard de leur liberté, s'engagent à respecter un certain nombre d'obligations qui sont posées par la loi. Et il est donc normal qu'il y ait une autorité qui s'assure du respect de ces obligations et qui, le cas échéant, utilise la panoplie des sanctions. Les sanctions qu'on utilise sont des sanctions principalement financières. Il y en a d'autres qui sont possibles. Je pense qu'elles ont quand même un effet dissuasif. La sanction que vous évoquez, en réalité, était de 3,5 millions d'euros. Donc c'est beaucoup plus important que les 500 000 que vous évoquez. Et voilà, je pense que ça a un effet. Et je rappelle que si un éditeur ne respecte pas ses obligations, ben au bout du compte, le régulateur peut ne pas renouveler aussi son autorisation. Donc non, je crois la contrepartie de la liberté, c'est la responsabilité. Et donc il est normal que les médias se conforment à des règles minimales qui sont fixées par le législateur et que ces règles soient contrôlées et le cas échéant sanctionnées.
Merci. Moi, j'ai une dernière petite question concernant l'IA.
Oui.
Comment l'ARCOM va essayer de contrôler l'impact de l'IA dans les médias, parce qu'on sait que ça devient de plus en plus important. Quelles mesures vous avez en tête ou vous avez peut-être déjà, auxquelles vous avez peut-être déjà réfléchi ?
Alors, on a une mission qui est en cours au sein de l'ARCOM pour réfléchir sur ce sujet. C'est une réflexion qui s'intègre dans le cadre européen, puisque, comme vous le savez, l'Union européenne vient de se doter d'un règlement sur l'intelligence artificielle. Pour nous, du côté des médias et du côté de la régulation des médias, il y a deux questions principales. Il y a la question de la manipulation de l'information. Comment ces outils pourraient conduire à la manipulation de l'information ? Première question. Et deuxième question très importante, c'est la protection du droit d'auteur. Puisque les outils d'intelligence artificielle utilisent un volume de données extrêmement important, données sur lesquelles parfois il y a des droits d'auteur par définition. Et donc, il faut voir comment on arrive à préserver les deux. Sur le premier point, on a déjà des outils dans la loi actuelle qui nous permettent d'intervenir sur des médias en cas de manipulation d'informations. Les éditeurs sont tenus de diffuser des informations exactes. Et donc, si on constate qu'ils diffusent une information inexacte, une information qui relève d'une opération de manipulation, on peut d'ores et déjà les sanctionner dans notre cadre actuel. Et de même, sur la protection du droit d'auteur, le règlement européen que j'évoquais tout à l'heure devrait nous permettre d'intervenir.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine, merci Jimmy à la réalisation.
Merci Elsa, on vous retrouve lundi prochain à 18h pour de nouvelles infos qui vous engagent. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.